pour reconnecter Martine.
Hey, comment ça va?
À Karim.
Super, pour vrai, ça fait longtemps.
Et Karim, à la bibliothèque.
Oups, excusez.
Il y a la STM, la meilleure façon de se reconnecter.
Bonjour, bienvenue à Escale 17-18 avec Fulgence Plat au micro et Nicolas Vatman à la technique. Mardi 22 mars 2022, c'est la Forum mondial de l'eau. Hein. Et puis, ça se passe à Dakar au Sénégal, je vais en parler aujourd'hui en première partie d'émission. De l'eau. Oui, ça va être les sources de guerre dans les années à venir, ça c'est clair. Et les gens... Ah, faut pas se voiler la face. Et puis en deuxième partie d'émission, je vais parler aussi de tennis parce qu'il y a Nadal qui a été battu par l'Américain. Voilà. Voilà, au final d'Indian Wells. Et puis du côté féminin aussi, je vais parler de la. Qui a gagné de la vainqueur voilà, celle qui a soulevé le trophée là-bas. Et deuxième partie d'émission, je vais recevoir Raquel Fletcher qui a écrit Qui est Québécois? C'est un portrait des politiques identitaires dans une société en évolution. C'est une journaliste de travail pour Global Mail, à l'Assemblée nationale du Québec. Elle est à Québec depuis plus de six ans, si je ne me trompe pas. Elle pourra nous parler de ça, en parler de son livre que j'ai reçu, que j'ai parcouru un peu. Elle touche à tout, quoi. Voilà, qui est Québécois? C'est une question d'identité. Hein. Alors, comme d'habitude, on va en musique avec Dominique Fils-Aimé, Rise.
Well, it's early in the morning. Sugar, when I rise. Said it's early in the morning. Sugar, when I. You done living in misery, bird. You done living in misery.
Mama, 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 rise. Mama, 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 mama.
Oui, Dominique Fils-Aimé, Rise, une de mes artistes préférées. Oui, c'est notre Dominique Fils-Aimé national, qui fait une carrière internationale d'ailleurs. Alors, comme quand je plantais le décor de l'émission, je l'avais dit d'ailleurs, Forum mondial de l'eau qui va se repositionner parmi les priorités pour la sécurité dans le monde. Ah oui, qu'on le veuille ou pas, c'est comme ça. C'est pas tout le monde qui a droit à de l'eau potable, malheureusement, sur cette planète. Oui, il faut le dire. Et puis bon, ben, quelquefois, tu te dis, est-ce que vraiment on a besoin d'en parler comme ça? Parce que c'est, quand je vois certains chiffres, près de 4 milliards de personnes subissent une grave pénurie d'eau au moins un mois par année, par an. Au moins 4 milliards de personnes subissent une grave pénurie d'eau. Voilà. 4 milliards, près de 4 milliards, voilà, qui subissent au moins une grave pénurie d'eau, un mois par année. Ça, c'est avec tout ce qu'on vit maintenant, sous ce qu'on... changement climatique, ou pas, mais c'était déjà là, cette histoire de pénurie d'eau, quelquefois dans certaines régions de la planète, c'était déjà là avant le changement climatique. Hein. Ah, changement climatique, de toute façon, il y a beaucoup qui n'ont pas pris ça au sérieux dès quand ça a commencé, il y a des décennies déjà, ça n'a pas commencé hier. Maintenant, au fur et à mesure qu'on avance, que ça s'aggrave, chacun de nous a les yeux un peu ouverts, les oreilles bien ouvertes, grandement ouvertes pour écouter ce qu'on dit, quelles sont les décisions qui sont à prendre. Alors, à Dakar, actuellement au Sénégal, toute la semaine, ça a commencé hier, ça va continuer jusqu'à la semaine prochaine, début de semaine prochaine, il y a un forum mondial de l'eau qui a ouvert ses portes, une semaine à Dakar. Tous les grands du monde sont réunis là-bas, ceux qui sont concernés, bien sûr. Et c'est quand même quelque chose, je ne sais pas s'il y a eu déjà des forums comme ça concernant l'eau annuellement, mais c'est rare que les gens se retrouvent comme ça, que le monde entier se retrouve comme ça, autour d'une table pour parler de l'eau potable. Quels sont ceux qui ont droit, quels sont ceux qui n'ont pas droit, qu'est-ce qu'il faut faire pour pallier le pire, pour ne pas qu'on soit vraiment dans le manque d'eau potable dans toutes les régions du monde. Ça peut arriver, hein. On pense à la légère, mais on pense que ceux qui se brossent les dents et puis ils laissent leur robinet couler, et pourtant ils sont en train de se brosser les dents, bon, c'est quand tu vas envoyer ta petite brosse à dents sous l'eau, tu as besoin de la mouiller un peu, que tu dois ouvrir le robinet. Voilà, bon, quand tu es enfant, peut-être oui, on gaspille un peu l'eau comme ça, ben, à un certain âge, quand même, on ne laisse pas l'eau couler au moment où on se brosse les dents. Non, tu ouvres, tu mouilles un peu ta brosse à dents, tu la refermes, donc tu refermes ton robinet et puis tu te brosses les dents quand tu as envie de te rincer les dents. Voilà, tu rouvres ton robinet pour que l'eau coule afin que tu puisses finir ce que ta petite toilette buccale. Ça, c'est ça. Alors, il y a des gens qui se sont déplacés. Il n'y a pas que les 3 ans et se tient pour la frais. Il n'a lieu que tous les 3 ans. Ah, c'est ce qui fait qu'on connaît mal ce forum-là. C'est pas tous les ans, tous les 3 ans. Il se tient pour la première fois, pour la première en Afrique subsaharienne. Il a été créé d'ailleurs ce forum en 1997. Ça fait un moment quand même, ça fait un bail comme on le dit. Oui, par le Conseil mondial de l'eau lié aux grandes entreprises de ce secteur. Il ne relève pas du tout de l'ONU. Voilà, c'est complètement indépendant. Il ne faut pas la crise de l'eau qui va devenir plus aiguë à mesure que le changement climatique augmente. Pourquoi la crise de conscience au niveau global tarde-t-elle autant? C'est toute une question que chacun de nous doit se poser. Voilà. Et y a, on se dit quelquefois, est-ce que c'est les décideurs qui tardent ou bien c'est que c'est les employeurs, les grandes compagnies qui jettent de l'eau dans les cours d'eau un peu partout à travers le monde? Comment il faut les sanctionner? Voilà, parce qu'il faut ça aussi. Hein. Ils s'en foutent complètement de la vie des autochtones, des gens qui vivent dans la plupart du temps dans ces régions-là, parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de ça dans les grandes villes. Voilà. Non, ils seront tout de suite poursuivis. Hein. Je parle de ces gros employeurs avec ces grandes sociétés. Voilà. Et puis, bon, ben, j'espère que les gens vont sortir de là avec de gros projets, avec des grandes décisions, hein, afin que le manque d'eau potable ne soit plus une cause majeure des déplacements forcés. C'est ça aussi, ça fait bouger les populations d'une région à une autre. Voilà, de l'Ukraine au Yémen, en passant par le Sahel ou l'Afrique centrale, l'enjeu de l'accès à l'eau potable est une constante des pays en guerre. Ouais. Tout ce qu'on vit actuellement en Ukraine, les gens ils n'ont même plus d'eau, accès à l'eau dans certaines villes qui sont complètement bombardées, il faut le dire. Voilà, Et alors, Guillaume-Pierre Humbert, chef de l'unité eau au comité international de la Croix-Rouge, qui a été rencontré par certains journalistes sur place, qui dit, oui, la restriction de l'accès à l'eau est une tactique de guerre, en plus. Donc, les gens qui vont en guerre, c'est une manière pour eux de, ne plus permettre à l'adversaire, au pays ennemi, ou bien à la nation ennemie, de ne plus avoir accès à l'eau potable. On connaît la suite, ce que ça peut donner. Les gens sont obligés même de boire n'importe quoi dans les caniveaux pour pouvoir se déforcer. C'est quelque chose qui fait peur. Il est donc difficile d'avoir une vue claire de la situation humanitaire sur place et dans des pays comme l'Ukraine actuellement. Et puis les problèmes d'accès à l'eau potable sont également critiques aussi dans les autres conflits en cours dans le monde. C'est pas seulement là. Au Yémen, par exemple, il y a quelque chose qui se passe là-bas. Sincèrement, je pourrais faire une heure d'émission sur ça. Hein? Ça va tellement vite. On va aller en musique. Et puis, je reviens sur ce Forum mondial de l'eau qui se tient actuellement à Dakar. Toute une semaine, toute la semaine, là, ils sont là-bas. Je ne sais pas, est-ce qu'ils vont manger du caviar? Est-ce qu'ils ont vraiment... Est-ce qu'ils vont vraiment discuter des vrais problèmes en jeu, les enjeux de cette histoire d'eau potable à travers le monde? Près de 4 milliards de personnes subissent une grave pénurie d'eau au moins un mois par an. Ça fait peur. On va en musique.
Je partirai pour les 5 continents, les déserts d'Afrique, les trésors d'Amérique, et je le voyage,
et je voyage autour du monde,
autour du monde.
La terre, le feu, l'eau, la montagne,
les 5 éléments.
J'observe le feu qui brille dans le ciel, des dragons du Japon, des milliers d'étincelles,
le soleil de minuit sur le sol de Capri, le Vésuve d'Italie, les cendres de Pompéi. Je naviguerai sur les océans, sur un tsunami, un brin de folie.
La victoire de Jeanne d'Arc sur les terres d'Orléans.
Je forge ma vie.
très beau duo. Atemi, Atemi, c'est ce duo qui est composé d'ailleurs de Véronique Plamondon et de François Gay. Les cinq éléments. Voilà, nouvelle découverte. Bon, avant de continuer, je vais parler du rapport. Je reste toujours dans le Forum mondial de l'eau, bien sûr. C'est pas fini. Ça continue. Juste, ça a commencé hier jusqu'à la semaine prochaine, début de la semaine prochaine, lundi. Il y a les Nations Unies qui ont fait un rapport d'ailleurs, rapport mondial des Nations Unies sur la mise en valeur des ressources en eau 2022, eaux souterraines. Et cette année, le thème, c'est « Rendre visible l'invisible ». Voilà, je reviens là-dessus, j'ai oublié d'en parler quand je parlais de ça en première partie, en début de ce petit passage de blablabla, si je peux me permettre. Voilà, ça c'est combien de pages d'ailleurs ce rapport-là ? Ce rapport, il fait 249 pages. Allez-y sur le site là-bas. unesco.org, vous allez tomber là-bas sur ce rapport mondial là qui fait 249 pages. Vous allez avoir toutes les informations. Presque toute l'eau douce sous sa forme liquide dans le monde est souterraine. C'est ce qui fait qu'ils ont choisi comme thème cette année, eau souterraine, rendre visible l'invisible. C'est de là que ça vient. Et puis, la région de l'Asie et du Pacifique a la plus faible disponibilité d'eau par habitant au monde. L'utilisation des eaux souterraines dans la région devant augmenter de 30% d'ici 2050. Et en Amérique du Nord et en Europe, les nitrates et les pesticides représentent une grande menace pour la qualité des eaux souterraines. 20% des masses d'eau souterraines de l'Union européenne dépasse les normes de l'Union européenne, de l'UE, en matière de bonne qualité de l'eau, en raison de la pollution agricole. Alors, chers amis, chers frères européens, réveillez-vous. Essayez de vous détacher un peu des grandes compagnies qui vous donnent les produits pour remettre aux fermiers, aux paysans. Alors, ce n'est pas du tout bon pour l'eau que nous buvons ou bien que vous buvez là-bas de l'autre côté. De toute façon, il faut faire très attention. Hein. Je ne sais pas, là, on dira bien, je suis bien curieux de savoir ce que ce grand forum mondial va donner l'année prochaine. Quelles sont les décisions qui vont être prises là-bas ? Voilà, je reviens, ça m'attriste quand même quand je vois des choses que près de 4 milliards de personnes subissent une grave pénurie d'eau au moins un mois par an. Ouais, c'est ça. Bon. Je vais revenir là-dessus hein, toute la semaine parce que c'est une semaine de forum, hein, c'est pas un forum de un jour, deux jours. Là. Non, c'est toute une semaine. Voilà, même il y a les artistes, il y a le producteur, le directeur artistique de Milk Music qui s'appelle David Carroll qui a réuni des artistes. C'est un franco-irlandais. Il a réuni des artistes africains qui sont, par exemple, qui habitent tout au long du fleuve du Sénégal. Pour donner leur voix du fleuve, voix de la paix, c'est très important. Les enjeux de la gestion du fleuve Sénégal. Oui, donc David Carroll, qui est là-bas aussi présent à ce forum, cet artiste, directeur artistique de franco-irlandais, il a dit non, on ne peut pas aller comme ça, au-delà de la musique d'ailleurs, au-delà de la musique, ce compositeur n'a pas eu de mal à convaincre les chanteurs qu'il a rencontrés. Ils étaient tous déjà engagés pour différentes causes. Avant ce projet, ils sont convaincus que leur place en tant qu'artiste va au-delà de la musique, à commencer Baba Mal et autres, le grand, l'oscarisé Baba Mal, et pour la musique du film Black Panther, c'est lui qui a composé la musique de Black Panther, et par ailleurs, ambassadeur des Nations Unies contre la désertification à la COP 14. C'est un grand monsieur. Il n'est pas là seulement pour chanter. Il peut faire autre chose. Alors, on dit bravo à tous ces grands messieurs, à ces grandes dames qui sont là-bas, mais revenez-nous avec des grandes décisions qui vont nous permettre d'avoir au moins un peu d'espoir. Voilà. Ou bien un espoir trompeur, peut-être. Oui. Et peut-être que je suis trop naïf pour croire encore à de l'espoir dans ce genre de rencontres, qui émanent de ce genre de rencontres. Je ne sais pas. Ma naïveté, bon, je ne sais pas. Ça fait que on verra bien ce que ça va donner tout ça. Bon, l'important, l'eau nous dit quoi ? Ouais, on dit quoi ? Je suis allé sur le site là-bas de cet organisme. C'est la journée mondiale. Les gens, beaucoup de gens qui a lieu aujourd'hui. D'ailleurs, cette décision, la journée mondiale de l'eau, les eaux souterraines, rendent visible l'invisible. Donc, l'attention se porte sur les eaux souterraines, une ressource visible, invisible d'ailleurs, dont l'impact est visible partout dans le monde. Voilà. Ces eaux sont aussi cruciales au fonctionnement au sein des écosystèmes tels que les zones humides et les rivières. Tout est là, tout est dit. L'occasion de prendre des engagements pour sa préservation. Merci. On va parler un peu de tennis parce qu'il y a des gens qui sont partis de ce dernier tournoi de tennis là avec des trophées. Il y a d'autres qui n'ont pas pleuré mais qui n'étaient pas du tout. Attends, avant d'arriver là, il y a Eugénie Bouchard qui revient, qui sera de retour en avril. Ah oui, Eugénie Bouchard qui sera de retour, suit un cours de tennis pour la première fois en un an. En avril, là, elle revient pour le championnat féminin des États-Unis sur terre battue. Là, il faut se reprendre, hein, ouais, parce que c'est un retour à la compétition pour l'athlète. Elle a 28 ans maintenant. C'est pas... À un moment donné, c'est comme l'autre, là, comment il s'appelle, le Suisse dont je parlais hier, Stravinka, qui, après un an d'absence aussi, lui aussi, il revient. Bon, ce ne sont pas des jeunes. Génie, on l'a connu aussi. Elle sera au festival, au tournoi de Innisbrook Resort, qui est en Floride, quelque part là-bas. Ça va lui rapporter un peu d'argent, c'est gagner des matchs. Essayer de voir si elle est encore en forme pour se retrouver sur aux grandes compétitions de tennis, quoi. Ouais, bon, parce que quand on est à l'écart comme ça de ces grandes compétitions. Alors, il y a le jeune américain Taylor Fritz qui a battu Nadal au final d'Indian Wells. Oui, l'américain Taylor Fritz. Il a infligé une première défaite à l'espagnol Nadal depuis le début de l'année 2022. Si Nadal gagnait ce match-là, cette finale, là, on allait dire, ouh, là, il est devenu imbattable à 36, 37 ans, je ne sais quoi, remportant la finale de l'Omnium d'Indian Wells en deux manches 6-3, 7-6, 5. Voilà, donc, il a vu une première défaite inscrite à sa fiche parfaite de 20-0 depuis le début de l'année. Ouais, c'est quand même, c'est quelque chose. Hein. Il avait fait ce coup, bon, ça fait, oui, 20 matchs sans défaite. 20 matchs sans défaite. Taylor Fritz avait fait ce coup-là aussi à Andrew Rublev en demi-finale en mettant fin à sa séquence de 13 victoires consécutives à ce dernier. À un moment donné, tu n'as pas tout le temps gagné, là, comme on le dit ici, avec Myriam, notre chroniqueuse des sports. Voilà, Nadal, cinquième tête de série, a sauvé une balle. Bon, là-bas, il a bien sauvé une balle de série, mais ça n'a pas pu l'aider à aller de l'avant. Alors, le jeune Taylor Fritz, gagner ce tournoi, c'est réaliser l'un de ses rêves d'enfance un peu fou que l'on croit ne jamais voir se concrétiser. Bravo, jeune homme. Voilà, on lui dit ça. Et j'espère qu'il va continuer, il va garder la tête sur les épaules pour pouvoir aller de l'avant. Et puis, j'ai encore une minute, au moins. Oui. Alors, chez les dames, ouais, je sais pas, il faut que je parle aussi des dames, parce qu'il y a une qui a gagné aussi. Chez les dames, qui a gagné un instant, je viens rapidement, c'est Iga Świątek, la Polonaise, qui s'est imposée face à la Grecque. Ouais. Maria Sakkari, 6-4, 6-1, sec. C'est parti très vite. Ça allait très vite. Alors bravo à Iga Świątek, la Polonaise. Et bravo aussi, merci à la Pologne qui reçoit des millions, des milliers de gens en provenance d'Ukraine. Alors, et puis il y a une qui va se taper un trophée là-bas de l'autre côté, à Indiana Wells. Bon, on ne peut que lui souhaiter cette victoire qui va la propulser d'ailleurs au second échelon mondial du classement de la VTT d'Ali. Voilà, elle sera derrière l'Australienne qui n'était pas présente d'ailleurs à ce tournoi-là. Ouais, ça va être comme ça. Même la Grecque, même si elle est battue, elle va être troisième mondiale. Hein. Tu vois, c'est un peu... Je le dis bravo, aller jusqu'en finale quand même. Bon, je peux dire bravo aux quatre finalistes. Nadal, et Taylor, Świątek et puis la jeune Grecque Sakkari. Sakkari, Maria Sakkari. Alors, on va en musique avant de terminer la première partie de l'émission. Qui va nous chanter maintenant? Oui, David Guetta avec la complicité et la voix de Anne-Marie. Don't leave me alone.
I don't wanna lie, can we be honest? Right now while you're sitting on my chest. I don't know what I'd do without your comfort. If you really go first, if you really left. I don't know if I would be alive today. With or without you like night and day. We didn't repeat every conversation. Being with you every day is a Saturday. But every Sunday you got me praying. Don't you ever leave me and don't you ever go.
I've seen it on TV. I know how it goes. Even when you're angry, even when I'm cold, don't you ever leave. See you singing Tiny Dancer. Every time my head hurts, every time I'm low. 'Cause I don't know if I would be alive today with or without you, like night and day. Everything about you uncomplicated. Here with you every day is a Saturday, but every Sunday you got me praying. Don't you ever leave me, don't you ever go. I've seen it on TV, I know how it goes. Even when you're
Guetta avec la voix de Anne-Marie dans Don't Me Alone. Oui, on a la fin de la première partie de l'émission, comme ça, restez à l'écoute. Après la petite pause publicitaire et la première pièce musicale, je reçois Raquel Fleischer qui est avec son livre. Pour son livre, qui est québécois? Voilà. Hein? C'est un portrait des politiques identitaires dans une société en évolution. Aux éditions hashtag. Restez à l'écoute si vous voulez en savoir plus. Allez, à tout de suite.
Connecter Diego.
Salut tout le monde, ça va bien?
À ses collègues.
Hey! Allô le petit nouveau.
Et ses collègues, à Diego.
C'est parce que ça fait 7 mois que j'ai commencé.
Il y a la STM. La meilleure façon de se reconnecter.
Escale 17-18 avec Fulgence Blas.
We have walked for so long with our heads to the ground. Amazing grace. We have died for so long with our heads under the moon. Why say good calling me why or not? Amazing grace. Save me now.
Save me now from the burden.
Becomes my enemy.
It's been a long time coming. And we've come a long way from home. A long way from home. And when I look back and I wonder, stolen dreams that we can't keep.
Amazing, amazing grace, coming to take me away.
Rachel, Carmen Lenny avec la complice de ses mouvements d'Anna Grace, c'est le titre de la pièce. Notre invité déjà au bout du fil, Raquel Fletcher, qui est québécois? Oui, c'est la question qu'elle pose à nous tous, ou bien elle se pose la question, elle nous le dira. Un portrait des politiques identitaires dans une société en évolution. C'est un ouvrage audacieusement bien documenté qui propose un portrait des politiques identitaires de la société québécoise en évolution constante. Brillamment menée par Raquel Fletcher, journaliste politique à l'Assemblée nationale du Québec pour le Global News. L'auteur jette un regard d'observatrice sur l'évolution et les conséquences des diverses actions posées et débats identitaires sur le mieux vivre ensemble. La fusillade à la mosquée de Québec par le jeune Alexandre Bissonnette. Peu de temps après l'arrivée de Donald Trump comme président des États-Unis, qui a changé à jamais le discours et les enjeux politiques au Québec. Bonjour Raquel Fletcher.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Je vais bien, vous?
Je vais bien, merci. Je me suis dit, est-ce qu'elle aura le temps? Parce qu'il y a le dévoilement du budget aujourd'hui, elle doit être occupée en train de... même si elle nous
oui,
a dit...
Oui, c'était une grosse journée, mais voilà.
Ça s'est bien passé. Vous étiez là-bas aussi, je ne me trompe pas. Oui, vous faites le reportage.
Oui, oui, oui.
Oui, d'accord. Alors, ce livre qui est sorti en 2020, la traduction vient de se passer d'ailleurs, et on va dire merci à Félicia Miali, c'est bien ça, qui a fait la traduction.
Oui, exactement. Oui.
Comment
je l'ai écrit en 2020 en anglais, puis elle a décidé de le traduire.
Oui, elle a très bien fait, sinon nous autres, on n'allait pas être capable de le lire. Bon, moi, je suis bilingue, je peux le lire, mais pas beaucoup d'autres gens n'allaient pas découvrir votre plume en français. Vous, bilingue, Théo, ça c'est in Québec, ça c'est en anglais. Ça. Alors, comment l'idée vous est venue? Vous êtes là pour... du journalisme, et tout d'un coup, l'idée vous est venue, après 6 ans au Québec, ça suffit, il faut que j'écrive un livre. Comment l'idée est venue?
Ben, en fait, comme vous savez, comme journaliste, on prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de notes.
Oui.
Lors des dernières élections, j'ai suivi tous les partis lors de la campagne, puis la question de l'immigration, de l'identité, toutes ces questions, tous ces enjeux identitaires prenaient beaucoup de place dans le discours politique juste avant, puis aussi après, lors de la campagne, puis après l'élection de la CAQ.
Oui.
Et les deux projets de loi le plus important, en fait, pour la CAQ, c'était la loi 21 sur la laïcité,
oui,
et la loi 9 sur l'immigration.
Oui.
Donc, on constatait quelque chose dans le discours, puis je cite Frédéric Boilly, entre autres,
oui,
qui est un professeur puis un spécialiste en politique, qui a dit depuis un bout, c'est récent, là, ce phénomène, que la question identitaire a presque supplanté la question nationale.
Oui.
On voit plus ce clivage entre les fédéralistes et les souverainistes. On voit en fait les partis. Maintenant, on a 4 partis représentés à l'Assemblée nationale, bientôt 5 peut-être. Avec Claire Samson pour le Parti conservateur, on a 5 partis.
Oui.
Et pas vraiment centré autour de cette question de l'identité québécoise. Donc, mon objectif était d'expliquer comment nous sommes arrivés là, mais aussi de vulgariser tous ces enjeux, de peut-être expliquer quand on fait des amalgames, pourquoi ça existe, mais expliquer ça à un grand public qui n'est pas nécessairement peut-être qu'il y a des lecteurs qui sont bien au courant de ce qui se passe, mais aussi je voulais écrire d'une façon qui serait accessible à tout le monde,
oui.
Y compris les gens à l'extérieur du Québec qui ne comprennent pas nécessairement tous ces enjeux-là.
Oui. À propos, ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes originaire de Saskatchewan, vous êtes né là-bas, vous avez étudié, faisiez études de journalisme à l'Université de Regina. Et puis, bon, ben, depuis presque 6 ans, corrigez-moi si je me trompe, 6 ans que vous travaillez pour le Global News à l'Assemblée nationale du Québec. Ouais.
Oui, c'est ça.
Et vos passions, c'est les voyages et vos chiens, qui font partie de vos grandes passions d'ailleurs. Francophone d'adoption et fier de l'être. Vous étiez francophone avant d'arriver à Québec? Francophile?
Francophile, oui. J'ai appris le français à l'Université de Regina.
Oui.
Puis j'ai été impliquée un peu dans la communauté françaiscoise.
Oui.
Qui m'a donné le goût de vivre en français, en fait. Donc, c'est pour ça que j'ai déménagé à Québec.
Oui.
Puis oui, je travaille en anglais. Je travaille pour une réseau anglophone.
Oui.
Mais je vis en français. Je parle français.
Tous les jours. Tous les jours.
Oui. Tous les jours, exactement.
Oui. Merci d'être venu gonfler le nombre de francophones, ou bien de tout le culte de la langue française, en Amérique du Nord, à Québec. Merci beaucoup. Comment est-ce que vos collègues journalistes à l'Assemblée ont accueilli ce livre-là, depuis la traduction?
Depuis la tradition.
Oui.
Je suis retournée à Regina récemment pour le mariage de ma sœur. Je suis de retour à Québec justement aujourd'hui.
Oui.
J'ai pas eu le temps de vraiment croiser mes collègues pour leur parler. Je sais que quand le livre est sorti en anglais, j'ai reçu beaucoup de commentaires positifs.
Oui.
La question identitaire, c'est quelque chose que même nous, les journalistes, on doit en réfléchir aussi parce qu'on couvre et on va continuer de couvrir ces enjeux.
Oui.
On est à l'approche des élections provinciales encore. Donc, à date, j'ai reçu des bons commentaires, mais j'ai hâte de retourner puis croiser mes collègues puis entendre leurs commentaires maintenant que le livre est sorti
français. Oui, oui. Moi, je me suis dit, bon, au chapitre 4, par exemple, l'accusation de racisme lors de la réouverture de la mosquée à Québec, quelques jours après la fusillade, les médias ont obtenu la permission d'entrer avec des caméras pour filmer les dégâts. Voilà. J'ai été soulagé de ne pas être envoyé pour la couverture de cette histoire. J'ai vu la vidéo plus tard, le même jour. De gros trous de balles dans les murs, plusieurs fenêtres cassées et des taches de sang. Beaucoup, beaucoup de taches de sang sur les parois et la moquette. Cette mosquée, c'est notre cœur. Cette mosquée, c'est le cœur de notre communauté d'ici, a déclaré Mohamed Lamidi, l'ancien président de la mosquée. On nous a attaqués dans notre cœur. Waouh! Est-ce qu'il vous a lu, Mohamed Lamidi?
C'était très... toute cette semaine-là était très difficile pour la communauté, mais aussi pour les journalistes qui font partie de la communauté. Moi, quand j'ai déménagé à Québec, j'ai pensé que peut-être j'aurais l'opportunité de passer en onde au national pour le retour des Nordiques.
Oui.
Moi, j'attendais cette histoire, en fait. Personne ne s'attendait à un attentat à Québec. C'est une ville paisible, c'est une ville tranquille.
Oui.
Il n'y a pas beaucoup de crimes.
Non.
Donc, cette semaine-là, qui était à la mosquée en plus, où les gens priaient.
Un jour de prière, oui.
Oui, c'est ça. C'était la soirée. En fait, ça a eu lieu juste après les prières. C'était inconcevable. Donc, on arrive au lieu. Puis la policière, je me rappelle, cette conférence de presse avec la policière qui a annoncé, oui, il y avait un attentat, il y avait des morts. Même quand elle a annoncé, je l'ai pas cru. Comme j'ai dit, c'était juste inconcevable comment ça aurait pu arriver à Québec.
À Québec, ouais.
Oui.
Ouais, à Québec. C'est comme ce qui se passe actuellement en Ukraine. Comment ça peut arriver en 2022.
Voilà. Oui, exactement.
Voilà, effectivement. On fait une petite pause musicale et puis on vous revient.
OK.
À tout à l'heure.
Wenin, qui suis-je? Apu ne stoap min. Tu ne me connais pas.
Apu tsentemen tat nuken.
Tu ne sais pas mes légendes.
Apu ne stoap etemen te pachemun.
Tu ne connais pas mon histoire.
Tu es ici en conquérant de ma terre, tu m'emprisonnes dans ma terre. Tu me prives de mon identité. Tu me prives de mon territoire. Tu m'enfermes dans des réserves que tu as créées. Tu veux être maître de mon
Chloé Sainte-Marie avec la voix aussi de Joséphine Bacon. Je sais que tu sais. Waouh. Voilà, mon invité est toujours avec moi. Raquel Fleischer qui a écrit « Qui est québécois ?» Un portrait des politiques identitaires dans une société en évolution. Elle est journaliste à l'Assemblée nationale du Québec pour le Global News. Là, on parle d'identité. Identité et immigration pendant la campagne. Il y aura bientôt des élections au Québec. Dans combien de mois? C'est dans 6 mois, non, si je ne me trompe pas?
Oui, 7 mois, je pense, en octobre.
6-7 mois, oui, en octobre, là, oui. Ouais. Et si on revient, bon, il y a Lisée qui avait publié un gazouille dans lequel il affirmait que le Québec devait construire une clôture pour empêcher les demandeurs d'asile de traverser la frontière. Voilà. Mm-hmm. Voilà, quand j'ai lu ça, j'ai dit, je me rappelle bien de ce. Il était encore à l'Assemblée, lui, en ce temps-là. Voilà. Et le chef du PQ a également appelé le gouvernement fédéral à annuler l'accord de sécurité entre le Canada et les États-Unis signé en 2002. Waouh. Alors, faites-nous un petit résumé. Vous, quand vous êtes là-bas au sein de l'Assemblée nationale, quand vous entendez les politiciens sortir des choses, comme des phrases comme ça, des mots comme ça, comment vous vous sentez?
On reste objectif toujours comme journaliste. Ça sort pas nécessairement de nulle part. Tu sais, oui. Le discours, c'est ancré. Il y a un contexte autour de ce discours.
Oui.
Donc moi, ma mission comme journaliste, c'est de comprendre ce contexte,
oui,
et d'expliquer, vulgariser ça à mon public.
C'est ça.
Mais c'est sûr que il y a certains discours, il y avait certains propos qui était insultant pour certains groupes au Québec.
Oui.
Donc aussi, on parle de la représentation. Avec le livre, il y avait des groupes minoritaires, mettons, des personnes issues des minorités au Québec qui sont soit nées au Québec,
oui,
ou sont des immigrants, mais qui, peut-être ils sont des nouveaux arrivants, mais peut-être ça fait des décennies qu'ils restent ici,
oui,
qui voulaient être entendus.
Mm-hmm.
Moi, j'ai parlé j'ai fait des longues entrevues avec certains leaders de ces communautés-là qui parlaient de leur point de vue. Donc, j'ai essayé d'inclure une variété de perspectives dans les livres,
mm-hmm,
afin de faciliter peut-être une meilleure écoute ou de présenter ces enjeux qui sont pas qui font pas consensus, si vous me suivez. Je voulais inclure ces voix-là,
oui,
qui me disaient, moi je me sens pas entendue, je me sens comme c'est ma perspective des choses, n'est pas importante dans le discours en général.
Oui.
Et je ne suis pas représentée nécessairement à l'Assemblée nationale dans le discours politique.
Oui.
Donc, c'est pas nécessairement, c'est un livre politique, c'est sûr, mais j'ai voulu inclure d'autres voix aussi.
Oui, oui. Par exemple, vous avez parlé de Webster, le rappeur.
Oui.
Historien de Québec, quelqu'un comme ça. Très engagé d'ailleurs, c'est un militant, on peut le dire, hein, c'est un militant celui-là.
Oui, un militant très engagé dans la communauté noire,
oui,
à Québec, au Québec en fait,
mm-hmm,
qui challengeait certaines perspectives,
mm-hmm,
qui voulait, tu sais, prendre une meilleure inclusion des minorités québécoises.
Oui.
Donc, je pense que c'est important d'inclure ses commentaires, mais il n'était pas le seul. J'ai parlé aussi avec d'autres personnes qui voulaient rester anonymes.
Ah, oui.
Pour certaines raisons. J'ai parlé surtout avec les représentants et les porte-parole de la mosquée qui témoignaient en fait toujours se sentir marginalisé par rapport à la société en général.
Oui.
Et qui témoigne que la loi 21 sur la laïcité, qui interdit le port des symboles religieux, par exemple, pour certaines personnes, les enseignants, les policiers, ça fait une sorte de renforcer ce sentiment d'isolement,
oui,
dans leur communauté. Et ça fait 5 ans depuis la fusillade. Il y a toujours la peine, il y a toujours la douleur qui n'a pas encore guéri dans cette communauté.
Oui, 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 non. Ça se, et puis ça s'oublie pas. Peut-être que ça, on peut pardonner, mais on peut pas oublier.
Oui, exactement.
C'est, voilà. Il n'y a pas de, il y a pas d'esprit revanchard là-dedans. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore ce livre, il vient d'être traduit, il était en anglais. Il était traduit, on dit beaucoup, 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 beaucoup merci à Félicia Miali, pardon, qui nous a permis d'avoir la version française. C'est Raquel Fleischer, qui est québécois, un portrait des politiques identitaires dans une société en évolution. Un dernier mot à nos éditeurs avant de vous laisser partir concernant ce livre ou bien la situation que... Vous, en tant que journaliste, vous vivez tous les jours avec les politiques là-bas, à l'Assemblée nationale.
Mm-hmm.
Un dernier mot, s'il vous plaît.
Un dernier mot, OK. Oui. Je pense que c'est important, surtout parce que le livre sort justement avant les élections.
Oui.
C'est le 3 octobre.
Oui.
En fait, les élections provinciales. Donc, les choses que je mentionne sont toujours de l'actualité.
Oui.
Oui. Sont pas des enjeux en 2018 qui, c'est la fin. C'est l'immigration, par exemple, la question identitaire, la lutte contre le racisme. Sont toujours des enjeux pour la société québécoise.
Ouais. Mmh.
Puis on va en parler beaucoup plus. On va continuer d'en parler lors des prochaines élections, puis j'en suis sûre même après.
Ah, ça va soulever des vagues là-bas. Ouais. Merci beaucoup Raquel Fleischer, journaliste.
Merci à vous.
Merci à journaliste à l'Assemblée nationale du Québec pour le Global News. Merci et à bientôt pour un autre livre, pourquoi pas?
Ben oui, peut-être.
Au revoir.
Merci, bye.
Bye. Maya, ce duo Maya, Robert Bay et Steven Todorov, Novo. Merci à toi Nicolas, on se retrouve demain. Et puis merci à notre invité qui est venu parler de son livre, Raquel Fleischer. Merci de votre fidélité, chers auditeurs et auditrices. On se retrouve demain à la même heure sur les ondes de Canal M. Prenez soin de vos minutes, comme je le dis souvent. Oui, et puis soyez à l'écoute de la petite étincelle de vie en vous. Voilà, ne négligez pas ça. Prenez soin de vous. Je vous dis ciao et à demain.
Pour reconnecter Simon et Pierre-Luc à
deux relèches moutarde puis le liqueur.
et surtout à ça.
Yeah! Voyons, j'ai plus de voix.
Il y a la STM, la meilleure façon de se reconnecter.